Nous avons abondamment parlé du règne de Dieu. Le monde n'est pas laissé au hasard. La vie de chacun de nous n'est pas laissée au hasard. Et vous êtes présent ce matin, ce n'est pas un hasard. Dieu veut que chaque homme le connaisse. Il veut sauver les hommes pour que les hommes le connaissent davantage. Et ceux qui sont déjà sauvés, Dieu désire qu'ils le connaissent davantage. Le but de notre vie, c'est de connaître notre Dieu. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et si vous ne connaissez pas encore l'Éternel, il veut vous faire le connaître, il veut vous parler pour que vous puissiez lui remettre entièrement votre vie. Donc nous avons vu que l'Éternel règne, nos vies ne sont pas laissées au hasard. Et ce matin, Dieu veut nous faire du bien au travers des cantiques, des prières. Et comment est-ce qu'on peut connaître davantage Dieu? Bien sûr, par les bonnes choses qu'il nous donne, mais aussi par les choses difficiles qu'il permet. Parce que nous grandissons dans une connaissance des choses non pas visibles, des choses spirituelles, des choses qui ne sont pas de ce monde seulement, mais qui appartiennent au royaume de Dieu. Et je veux voir ce matin avec vous la croissance par l'épreuve. Et je vous invite à prendre Lamentations de Jérémie, chapitre 3. Lamentations de Jérémie, chapitre 3. Alors, Lamentations de Jérémie, chapitre 3, nous lisons au verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » J'attends que tout le monde ait trouvé la référence. « Les bontés de l'Éternel, Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Mais quelques versets plus loin, nous lisons au verset 37. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Et remarquez bien, à la fin du verset 37, il est dit « sans que le Seigneur l'ait ordonnée ». Ce n'est pas le hasard si les maux et les biens nous viennent. Mais au contraire, Dieu les ordonne l'un et l'autre. Et le proverbe 16, verset 4, dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Alors, beaucoup diraient, mais le bon Dieu, il ne peut pas faire ça. C'est pas possible. S'il est bon, il ne peut pas faire de mal. Une telle chose n'est pas possible. Mais la Bible nous le dit, c'est écrit, et la foi dit oui, Dieu peut faire ça, car ce qu'il veut, c'est notre bien, et surtout que nous croissions dans sa connaissance. Et il va utiliser tous les moyens d'éducation pour nous faire grandir, et en particulier l'épreuve. Nous voulons donc ce matin nous pencher sur tout d'abord la nécessité des épreuves. Ensuite, sur quelques attitudes à adopter lorsque nous traversons une épreuve. Et enfin, quelques bienfaits spirituels de l'épreuve. Commençons tout d'abord par le premier point, la nécessité des épreuves. Quand on considère la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, force est de constater que la volonté de Dieu, pour lui, s'est accomplie au travers de nombreuses épreuves, du berceau au tombeau. Il n'a pas été épargné. Et quand on regarde aussi la vie des prophètes, des patriarches, des apôtres, tous sont morts en martyrs, sauf Jean. Les hommes et les circonstances ne font qu'accomplir la volonté de Dieu. Et pour le Fils de Dieu, ça a été évident. Et nous lisons dans Actes, prenez avec moi Actes chapitre 4, verset 28, pour voir la nécessité des épreuves. Actes chapitre 4, verset 28, et en particulier dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 4. Verset 27, nous commençons là. Actes chapitre 4, verset 27. Actes chapitre 4, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Les choses ne sont pas venues au hasard dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu Ponce Pilate, il y a eu les nations et les sacrificateurs, il y a eu les crachats, il y a eu la couronne d'épines, il y a eu toutes ces choses que Dieu avait ordonnées d'avance et que l'on trouve écrit dans l'Ancien Testament, même avant que ces choses soient arrivées. Les hommes, les circonstances n'ont fait qu'accomplir tout ce que la main et le conseil de Dieu avaient arrêté d'avance. Ce qui est vrai pour le Seigneur est vrai pour ses disciples. Pour ses disciples, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des disciples. Ce que Dieu veut faire, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous devons suivre la voie du Maître. C'est bien ça, le chemin du disciple. Comment le fruit de l'esprit pourrait-il se développer dans nos vies s'il n'y avait pas d'adversité? Comment est-ce que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi pourraient se développer s'il n'y avait pas d'adversité? Si tout était bien, ça n'aurait pas vraiment de sens. Et le Seigneur nous l'a montré, et justement, nous voyons qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, parce qu'il nous a aimés, et là nous voyons combien Dieu nous a aimés. Nous voyons aussi qu'il était patient avec les disciples. Il a pris soin des gens les plus pauvres, et sa grâce s'est pleinement manifestée. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, tout cela s'est magnifiquement vu dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, d'une façon merveilleuse au travers des épreuves. Et certainement nous disons beaucoup de choses, nous disons aimer. Et quand nous sommes blessés ou traités de façon injuste, comment réagissons-nous? Nous disons avoir la vie, la joie chrétienne, jusqu'à ce qu'un drame ou une déception vienne briser notre vie. Comment réagissons-nous? Dieu le permet pour nous faire grandir dans le fruit de l'esprit. L'adversité ne nous ménage pas. Dieu l'utilise pour que nous nous tournions vers lui, que nous crions à lui, que nous lui demandions de nous transformer, de nous faire grandir à l'image de son Fils. Prenons encore Jacques chapitre 1 pour voir la nécessité des épreuves dans la vie du croyant. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Le verset 2, Jacques dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et Romains chapitre 5, on peut tourner un peu en avant, Romains chapitre 5. Après avoir parlé du salut que nous avons par pure grâce, Romains chapitre 5 verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et Paul ajoute bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La Bible ne sépare pas les difficultés de la vie chrétienne. Elle ne dit pas, vous êtes croyant maintenant, tout va être beau, c'est le bonheur, il n'y a pas d'épreuve. Au contraire, tout est lié. Tout va ensemble. Dieu ne nous demande pas de nous réjouir de l'épreuve elle-même, mais parce que l'adversité a des effets bénéfiques sur notre croissance spirituelle, nous devons nous réjouir quand nous les traversons. L'apôtre Paul en prison disait aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Et bien des fois, l'apôtre était dans des situations compliquées, mais il semblait le plus heureux des hommes. Parce qu'au travers des difficultés, il apprenait à connaître son Dieu. Il s'attachait aussi davantage à son Seigneur, le servait davantage avec plus de foi, en comptant davantage sur lui, et puis, bien sûr, il se détachait davantage des choses de cette vie. Malheureusement, nous avons tendance à écarter l'idée de l'épreuve dans nos vies. C'est pas une bonne chose, disons-nous. Nous la fuyons. La moindre chose peut être un sujet de découragement. Nous avons tendance, malheureusement, à nous polariser sur les aspects pénibles de l'adversité au lieu de considérer par la foi ce que notre Père Céleste est en train d'accomplir au travers de ces épreuves, pour nous faire grandir dans la ressemblance de Christ, bien sûr. C'est le but de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut nous faire grandir à la ressemblance de Christ. Et Jésus est notre exemple. Je vous lis Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Le Seigneur n'est pas allé au ciel comme ça, il a d'abord souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il nous montre l'exemple, il nous demande, regardez, parmi tous les héros de la foi, il est celui qui est excellent, il nous demande à le suivre. Donc, regardons-nous aussi, par la foi, au-delà de l'épreuve, et réjouissons-nous dans la certitude que Dieu est souverain, comme nous l'avons lu ce matin dans les psaumes, qu'il contrôle les circonstances de chacune de nos vies, qu'il connaît ses brebis par leur nom, et qu'il agit au travers des circonstances pour notre bien ultime. Parce qu'on peut être riche des choses de ce monde, en argent, en situation, et pauvre spirituellement. La vraie richesse est au ciel, et c'est ce que Dieu veut pour nous. La croissance dans la sainteté ne va pas sans l'épreuve. La croissance à la ressemblance de Christ ne va pas sans l'adversité. L'épreuve est une nécessité ordonnée par Dieu pour notre bien. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors, voyons maintenant quelles attitudes peuvent nous aider à supporter les épreuves. Nous n'allons pas faire la liste de toutes les attitudes, mais nous pouvons en voir quelques-unes ou revoir quelques-unes que vous connaissez bien. Tout d'abord, on peut parler de la soumission par la foi. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. Il sait exactement quand et comment procéder pour que nous puissions grandir dans un domaine particulier. Il est, nous dit Jean chapitre 15, le vigneron qui émonde sa vigne. Vous savez que si vous laissez la vigne pousser comme ça, vous aurez beaucoup de belles feuilles. Ça va être joli, mais pas de fruits. Et ce n'est pas le but. Comme d'ailleurs bien des plantes, il faut les tailler si on veut avoir des fruits. Sinon on a de belles fleurs, des belles feuilles, mais pas de fruits. Eh bien, pour qu'une vigne porte du fruit, il faut à la fois la nourrir et la tailler. Dieu fait l'un par la parole, il nous nourrit par sa parole, et nous taille par les épreuves. Le psaume 94, au verset 12, nous lisons « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. » Le châtiment de Dieu, ce n'est pas seulement la punition, c'est un ensemble de dispositions que Dieu prend pour nous éduquer, nous faire grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est de la prévention, c'est de l'instruction, c'est aussi de la correction, mais c'est un ensemble de choses que Dieu met en ordre pour nous faire grandir. « Heureux l'homme que tu châties, heureux !» Il n'est pas dit « malheureux ». Et le psaume nous dit « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. » Sans que nous nous en rendions compte, Dieu agit dans nos vies au travers de l'épreuve. Philippiens, prenons Philippiens chapitre 1, verset 6, et ensuite Romains chapitre 8. Alors, nous sommes dans Philippiens. Philippiens chapitre 1, verset 6. On peut commencer au verset 3. Philippiens chapitre 1, verset 3, c'est Paul qui adresse ces quelques mots au frère de Philippe. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Les Philippiens connaissaient diverses épreuves, l'apôtre Paul aussi, mais l'apôtre dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, si Dieu vous a sauvé, il a commencé en vous une bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est lui qui va la rendre parfaite avec tout ce qu'il permet, il règne, il conduit l'histoire, il conduit nos vies. Nous ne sommes pas laissés au hasard. Et c'est vrai que dans ce monde, il y a tellement de, on le voit aujourd'hui, des guerres où les hommes cherchent les choses pour eux-mêmes, d'intérêt personnel. Eh bien, Dieu est au-dessus de ça. Il règne. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et prenons Romains chapitre 8, retournons un peu en arrière dans Romains, chapitre 8, verset 28. C'est un beau chapitre, Romains chapitre 8. Alors, il nous dit au verset 28, « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Alors le verset 28 nous dit « Nous savons ». Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le contexte de ce verset 28, quand on lit un petit peu avant, au verset 18, on voit qu'il y a des souffrances. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La création entière souffre à cause du péché. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Les chrétiens aussi souffrent parce que le corps est là, le péché est encore là, le monde est hostile et ils veulent connaître Dieu, non pas par la foi mais par la vue. Et ils ont les prémices de l'esprit, mais ils attendent ce temps-là. Mais il y a beaucoup d'espérance dans ces versets parce qu'il y a une attente de quelque chose de merveilleux. L'espérance qui nourrit la foi, qui nourrit la patience. Et il y a aussi la création qui soupire, les croyants qui soupirent, et le Saint-Esprit aussi qui soupire en nous, qui prie, parce que nous ne savons pas toujours bien prier, mais l'Esprit en nous intercède par des soupirs inexprimables. Et Dieu, qui connaît la pensée de l'Esprit, Dieu qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et voilà ce verset 28 qui nous dit, nous savons du reste, dans ce contexte d'épreuve, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà, Dieu, il y a tant de difficultés, de souffrances, mais Dieu est au-dessus de cela. Et qui peut organiser mieux que Dieu les biens, les maux pour notre bien? Eh bien, lui, il est souverain. Nous l'avons lu ce matin dans les psaumes. Et il nous a dit, nous savons, nous ne sommes pas ignorants. Et il a dit aussi que toutes choses concourent, elles travaillent ensemble. C'est pas une qui fait son travail d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et tout ça est incohérent. Toutes choses travaillent ensemble. Pourquoi? Pour notre bien, pas pour notre mal. Pour notre bien, pour ceux qui aiment Dieu, et nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, dit l'apôtre Jean. De ceux qui sont appelés selon son dessein, ce ne sont pas nos plans qui seraient réalisés dans nos vies, c'est le dessein de Dieu. Et c'est vrai, quand on regarde la vie du Seigneur Jésus-Christ, les gens disent « Oh là là, si est le Messie, comment ça se fait qu'il est sur la croix ?» C'est vrai que les disciples sont morts en martyrs, on a pu dire « Mais ces hommes-là, c'était des hommes de Dieu, si Dieu est puissant, pourquoi il ne les a pas gardés en vie ?» Quand on regarde la vie de beaucoup de saints, ils n'ont pas eu de grandes richesses, ils n'ont pas eu de grandes possessions, ils n'ont pas eu de grandes responsabilités. Ils sont, et jusqu'à aujourd'hui, certains meurent dans le martyr, et ils perdent tous leurs biens. Mais le dessein de Dieu s'accomplit dans leur vie. Ils grandissent à la ressemblance de Christ. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc des fois, sans que nous le comprenions vraiment, Dieu agit dans nos vies par l'épreuve. Que l'épreuve soit petite, qu'elle soit grande, elle sert à notre croissance d'une manière ou d'une autre. Faisons confiance à Dieu qui règne et marchons humblement par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Vous pouvez prendre avec moi ce verset si vous voulez. C'est un verset que vous connaissez bien. Hébreux chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et le verset 11, 1 dit « Or, la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc voilà, pour nous, une façon de traverser l'épreuve dans la paix, dans la confiance, c'est de traverser l'épreuve dans la foi. Il y a aussi une autre façon de traverser l'épreuve. Il y a une attitude qui peut nous permettre de supporter les épreuves, c'est d'appliquer les Écritures à notre situation. La Bible n'est pas une collection d'idées abstraites. Quand nous appliquons la parole de Dieu à nos difficultés, non seulement nous tirons profit des circonstances adverses, mais encore nous comprenions mieux les Écritures. Les disciples n'ont pas tout compris au début, mais alors que le temps avançait, alors que les choses, les événements se produisaient, ils ont dit, mais il avait déjà dit ça, il l'avait dit. Voilà, dans l'épreuve, nous comprenons mieux les Écritures et nous tirons profit des circonstances adverses. Ne cherchons pas dans l'affliction une nouvelle doctrine étrangère à la parole. L'épreuve ne nous apprend rien de plus que ce qui est déjà écrit. L'épreuve ne nous apprend rien de plus que ce qui est dans la Bible. L'épreuve, au contraire, va clarifier certains points de doctrine. Elle va nous permettre de découvrir d'autres points de doctrine. À d'autres occasions, elle va nous faire passer de la connaissance intellectuelle, je dirais, une connaissance intellectuelle de la vérité, une connaissance pratique, une connaissance vraie, comme les apôtres l'ont fait quand le Seigneur est parti et que l'Esprit leur a été envoyé. Finalement, l'adversité et la parole de Dieu travaillent ensemble. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils travaillent ensemble pour nous faire croître. Regardons Ésaïe, chapitre 55, pour voir l'utilité de la parole pour le croyant. Et donc, pour nous, nous devons la lire, la méditer. Ésaïe, chapitre 55, pour voir ce que dit le prophète au sujet de la parole de Dieu. Ésaïe 55, et nous pouvons commencer au verset 8. Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et ce verset 10 nous intéresse. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Chacun voit comment la pluie arrose la terre, on a des phénomènes de sécheresse, les cultivateurs s'en plaignent, mais quand la pluie est là, elle arrose la terre. Et vous voyez, au verset 10, la pluie et la neige sont parlées en termes positifs. On dit qu'il est parlé d'arroser, à la fin du verset, de féconder la terre, de faire germer les plantes, de donner de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Eh bien, le prophète Ésaïe dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Nous voyons Éphésiens avec notre frère Tony, dans le premier chapitre, il nous a dit que Dieu accomplit toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il ne va pas dire, il ne vient pas prendre conseil auprès de moi, ni auprès de quelque homme. C'est lui qui fait le dessein, c'est lui qui prépare le projet pour la vie de chacun, et il accomplit chaque chose selon son dessein. Dieu a un plan, un dessein pour la vie de chacun de nous. Et Dieu veut nous faire du bien, nous faire croître dans la connaissance de sa personne. Romains chapitre 14, verset 4, parle de la même chose quand nous pouvons lire dans ce livre de Romains, verset 14 et 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Romains chapitre 14, verset 4. Vous voyez la teneur de ce verset. Il nous est parlé de patience, de consolation que donnent les Écritures. Ça veut dire que dans nos vies, il y aura des moments difficiles. Il y aura besoin de patience. Il y aura besoin de consolation. Et il y aura besoin d'espérance. Et qu'est-ce qui nous donne ça? Les Écritures. Donc nous avons besoin, c'est Romains chapitre 14, verset 4, 15, pardon, excusez-moi, Romains chapitre 15, verset 4, merci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà, la foi, première chose, appliquer les Écritures à notre situation, deuxième chose, troisième chose, nous rappeler aussi les leçons du passé. Le peuple d'Israël a souvent été qualifié par Dieu lui-même d'un peuple oublieux. Il avait oublié tout ce que Dieu avait fait pour lui, c'est pourquoi il se rebellait et retombait dans les péchés, en particulier l'idolâtrie, et c'est pourquoi il était exilé à Babylone, et après, il a appris la leçon après 70 années de captivité. Dieu ne veut pas que nous traversions une épreuve pour l'oublier après. Il veut que nous nous en souvenions, non comme une épreuve ou un chagrin, et tout le temps ressasser, oh là là, c'était dur ce moment-là, oh là là, qu'est-ce que Dieu a fait là, oh là là. Non, Dieu veut que nous nous souvenions de l'épreuve pour voir combien il a été présent avec nous là, combien il nous a soutenus, et des fois, nous sommes peu reconnaissants, remarquons-le, frères et sœurs. Nous avons du mal à dire merci au Seigneur. Dans notre monde occidental, c'est vrai, on a la maison, on a le travail, ça semble couler de source, mais dans d'autres endroits, il y a des gens qui n'ont pas tout ça. Et ils savent apprécier la grâce de Dieu. Quand ils se réunissent, c'est dans la clandestinité. C'est dans des conditions difficiles qu'ils louent le Seigneur, même qu'ils vivent. Si on sait qu'ils sont chrétiens, nous l'avons lu. Enfin, les jeunes l'ont vu et nous savons qu'ils sont persécutés pour leur foi. Nous avons beaucoup de sujets d'action de grâce, mais nous ne percevons pas le fait que Dieu, dans tout ce que nous traversons dans la vie, Dieu était là. Et si nous sommes vivants aujourd'hui, nous pouvons dire merci Seigneur, je suis encore vivant pour entendre la parole, pour lire la Bible, chacun une Bible, pour être dans ce lieu où on a des chaises, on a des commodités, on a plein de choses, on a beaucoup de sujets d'action de grâce, mais nous ne sommes pas reconnaissants comme nous devrions. Eh bien, voilà, nous souvenir des leçons du passé, ne pas se rappeler seulement que des mauvaises choses et dire, oh là là, qu'est-ce que c'était difficile. Non, Dieu veut que nous nous souvenions de ces choses comme un moyen pédagogique où nous avons appris à compter sur lui, nous avons appris à mettre notre confiance en lui, à patienter, il nous a fait sortir de cette épreuve. Notre frère Eric peut le dire, et d'autres encore, de la maladie, de plein de choses. Regardons Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, pour voir cet aspect du rappel de ne pas être oublieux. Deutéronome chapitre 8. Oui, il sait que son heure arrive et il laisse les dernières instructions au peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 8, c'est le verset 2 et 3 qui nous intéresse, mais nous commençons au verset 1, Deutéronome 8, 1. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. On peut parler pour nous de ce ciel qui nous attend, de cette merveilleuse espérance que nous avons. Et pour l'instant, nous sommes pèlerins, comme le peuple d'Israël. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ils avaient donc à se rappeler toutes ces étapes où il y avait des difficultés permises par Dieu pour leur instruction et pour leur apprendre justement. Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que Dieu ordonne, tout ce que Dieu commande, tout ce que Dieu prévoit, tout ce que Dieu a prédit. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce que Dieu a déjà dit et que Dieu fait. Et verset 18, toujours cet esprit de ne pas être oublieux, verset 18, souviens-toi, Deutéronome 3, 18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Christ est mort à notre place. Nous sommes maintenant en lui. Si je vis par la foi. Je ne mets pas ma confiance dans ma chair, mais dans le Seigneur qui m'a aimé. Et s'il est mort pour nous, eh bien, il peut aussi nous sauver pleinement. Voilà. Eh bien, la foi, appliquer les Écritures à notre situation et nous rappeler des leçons du passé, non pas dans des termes douloureux, mais avec reconnaissance. Et savoir finalement, Dieu était là. Eh bien, après avoir vu quelques attitudes qui nous aident à traverser l'adversité, examinons maintenant trois bienfaits spirituels de l'épreuve. Le premier bienfait spirituel de l'épreuve, un des bienfaits, c'est tout d'abord la dépendance. Et je vous invite à prendre la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1, pour voir l'idée de dépendance dans l'épreuve, le bienfait, un des bienfaits qui découle de l'épreuve. 2 Corinthiens chapitre 1, voilà ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Versets 8 et 9, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce. Voilà. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Et bien souvent, quand Paul parle de toutes ces afflictions, il ne parle pas de quelque chose comme c'était la fin du monde. Voilà, c'était la fin. Non, il y a toujours, ça se termine toujours, mais Dieu était là. Mais Dieu était avec moi. Ils m'ont tous abandonné, mais Dieu était avec moi. Qu'il n'en soit pas tenu rigueur. Le Seigneur est avec lui. Et 2 Corinthiens chapitre 12, on tourne la page, 2 Corinthiens chapitre 12, et il vaut la peine de lire les dix versets. De Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans ce corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Voilà un beau témoignage de dépendance de Dieu. Et voilà un bienfait de l'épreuve. Paul le dit. Le monde encourage l'indépendance. Le monde encourage la confiance en soi. N'est-ce pas? Le chrétien peut adopter la même attitude. On peut compter sur sa connaissance des Écritures, sur son expérience, sur ses qualités. Dieu utilise alors l'adversité pour nous apprendre à compter sur lui, pour nous apprendre à nous appuyer sur lui seul. Les difficultés insurmontables de Paul se produisirent, dit-il, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. La première référence que nous avons lue, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9. La deuxième référence nous dit « que dans le domaine spirituel aussi, Paul devait apprendre à dépendre de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 10 que nous avons lu. Paul voulait se débarrasser de cette écharpe qu'il avait dans la chair et 3 fois il a prié Dieu. Nous ne savons pas quelle était la vraie nature de cette écharpe. Mais Dieu n'a pas accédé à ses vœux, à ses souhaits. Dieu n'a pas accédé à ses requêtes pour 2 raisons. Et Paul le dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Et deuxièmement, pour qu'il apprenne à compter sur la grâce de Dieu et non sur les ressources humaines. Qu'il apprenne aussi à apprécier la grâce de Dieu. S'il n'y a pas besoin de la grâce de Dieu, mais tout roule. On n'apprécie pas cette grâce. Mais quand on est dans la difficulté, dans l'épreuve, et qu'on voit comment Dieu nous fait du bien, il nous dirige, il nous rend patient. Enfin, le fruit de l'esprit se développe en nous. On dit, ô grâce merveilleuse, nous chantons ce cantique avec un cœur entier. Dieu avait accordé à Paul une intelligence hors du commun. On lit ça dans Actes chapitre 22, verset 3. Dans Philippiens aussi, chapitre 3, versets 4 à 6, il avait été instruit dans les pieds de Gamaliel, un pape du judaïsme. Il était plus zélé que tous ceux de son époque. Et il avait eu des révélations divines d'une telle gloire qu'il n'y avait même pas de mots pour exprimer ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu. Il n'y avait pas de mots, il nous a dit. Il n'y avait pas de mots pour l'exprimer. Mais Dieu n'a pas permis à Paul de vivre de ce qu'il avait vu ou entendu à ce moment-là, de ce qu'il avait reçu, ces visions merveilleuses, transcendantes. Il devait, comme vous et moi, apprendre à compter sur la grâce de Dieu. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. On lit par exemple dans Actes chapitre 7, verset 22, je vous lirai. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. Verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Moïse est venu avec toute sa sagesse, pensant qu'avec ça, il va pouvoir délivrer le peuple. Eh bien, il a pensé que Dieu voulait l'utiliser tel quel pour sauver les Israélites du joug égyptien. Mais Dieu a réduit ses efforts à néant et Moïse a dû fuir. Quand il a tué l'Égyptien et que ça s'est découvert, il a dû fuir, il est resté 40 années là, dans le désert, avec les brebis, c'était son institut biblique. Mais là, il a appris à compter sur la grâce de Dieu, à s'appuyer sur lui seul et non pas sur ses connaissances, sur ses capacités. Voilà. Et Moïse n'avait toujours pas repris confiance en lui après ses 40 années à Madian, mais la grâce de Dieu a brillé dans sa vie et l'a aidé à faire la volonté de Dieu. Moïse et Paul, tous les deux, connurent une épreuve qui les obligea à prendre conscience de leur faiblesse, parce que si on ne sait pas qu'on est faible, on n'a pas envie de s'appuyer sur quelqu'un. Donc ils ont pris conscience de leur faiblesse et de la nécessité de s'appuyer sur Dieu. Dieu veut nous utiliser. Il va permettre les épreuves de notre vie pour que nous apprenions à dépendre de lui. Voilà, c'est un bienfait de l'épreuve. Le deuxième bienfait spirituel que produit l'épreuve, c'est la persévérance. Hébreux chapitre 10, verset 36 nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » C'était des Hébreux qui passaient par des épreuves. Et on leur disait « Vous avez besoin de persévérance. » Hébreux chapitre 12, verset 12 « Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Eh bien, ces chrétiens hébreux passaient par des moments difficiles. Dans le chapitre 10 des Hébreux, on peut voir ça. Pourtant, ils demeuraient fermes malgré toutes les formes de persécution qu'ils subissaient. Ils avaient même accepté l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'en Jésus-Christ, ils possédaient des biens meilleurs et éternels. On peut lire ça. Hébreux chapitre 10, versets 32 à 34. Je prends un petit peu de temps encore. Hébreux chapitre 10, prenez avec moi ça pour voir. Comment des chrétiens persécutés et dépouillés prenaient courage dans le fait qu'ils avaient les choses les meilleures les attendaient. Et Hébreux chapitre 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associer à ceux dont la position était la même. En effet, Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, verset 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà. Eh bien, ils possédaient des biens meilleurs, donc ils ont accepté l'enlèvement des biens temporaires. À l'intention de ces chrétiens en proie à toutes sortes d'épreuves à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ce sont des juifs qui s'étaient donnés au Seigneur et qui étaient persécutés par leur famille, ils perdaient leur travail, ils perdaient leur maison, leurs biens. Voilà. Eh bien, l'auteur de la lettre écrit Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 12 et suivant. La persévérance nous permet de poursuivre notre but en dépit des obstacles qui se dressent sur notre chemin. Persévérer, ça veut dire endurer, ça veut dire avancer. Chacun de nous a une volonté divine à accomplir. La vie chrétienne n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. C'est pas aller vite et s'essouffler, mais c'est aller jusqu'au bout. Pour terminer notre course, il nous faut donc apprendre à persévérer. Comment y parvenir ? Paul et Jacques nous donnent la réponse. Romains chapitre 5, verset 3 et Jacques chapitre 1, verset 2 que nous avons lu. Bien plus, nous glorifions même les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et Jacques chapitre 1, verset 2 qui nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc il nous faut persévérer. L'affliction produit la persévérance. Voilà. L'épreuve et la patience produisent un effet réciproque. L'un nourrit l'autre. L'épreuve produit la patience et la patience nous permet de traverser l'épreuve. Les deux vont ensemble. Ce sont deux sœurs jumelles. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Voilà. La patience se développe au sein de l'épreuve, mais la patience tire son énergie de la foi. C'est la force de Dieu et non la force humaine qui permet de persévérer. Et c'est par la foi qu'on s'approprie la force de Dieu. Hébreux chapitre 11, 12 et suivant. Eh bien, une chose importante qu'il faut souligner, frères et sœurs et chers amis, nous devons d'abord apprendre à compter sur Dieu, apprendre à dépendre sur Dieu pour pouvoir ensuite persévérer. Un homme est capable de faire de grandes choses uniquement par la force de sa volonté. Mais personne ne peut vivre une vie agréable à Dieu de cette façon. Il nous faut la vivre par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est la force de Dieu qui nous permet d'accomplir jusqu'au bout la volonté de Dieu. Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Philippiens chapitre 4, verset 13. Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il nous faut dépendre de Dieu pour pouvoir persévérer. Ces versets donc abordent deux facettes de la même vérité. Sans la force du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais avec elle, nous pouvons accomplir ce que Dieu attend de nous. Dieu nous demande de persévérer, d'accomplir jusqu'au bout sa volonté, en dépit des obstacles et des découragements. Avec sa force, nous pouvons y arriver. Nous avons vu donc combien fait spirituel de l'épreuve, la dépendance de Dieu, la persévérance. Et le dernier aspect que j'aimerais voir, c'est la connaissance de Dieu. Pour terminer, la connaissance de Dieu. Finalement, c'est le but suprême que Dieu veut, auquel Dieu veut arriver. Le plus grand bienfait de l'adversité est l'approfondissement de notre communion avec Dieu. Job est un cas vraiment intéressant. Job, au chapitre 42, verset 5, dit « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Mais maintenant, mon œil t'a vu. Job était un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. C'était déjà un chrétien qui avait une certaine stature spirituelle. Mais Dieu voulait qu'il le connaisse davantage. Et là, comment il l'a fait? Eh bien, par l'épreuve. Par l'épreuve. Eh bien, comme Job avait déjà cette connaissance de Dieu, mais Dieu voulait qu'il connaisse son sauveur davantage. Philippiens chapitre 3, verset 10 nous dit « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Nous désirons tous connaître Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons connaître Dieu, nous appuyer davantage sur lui, l'aimer davantage. Nous voulons le connaître d'une façon plus profonde, mais souvent nous reculons devant l'épreuve, devant la souffrance. Nous n'en voulons pas. Mais en fait, la souffrance dont nous parle ce verset dans Philippiens chapitre 3, verset 10, n'est pas uniquement la persécution à cause de l'évangile. Il s'agit, quand il parle de souffrance, Paul parle de toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de situations difficiles que le croyant pourra rencontrer au cours de sa vie. La Bible nous montre des hommes et des femmes qui grandissent dans la connaissance de Dieu grâce à l'épreuve. Abraham et Sarah, par exemple, ont dû attendre longtemps avant d'avoir Isaac. Et qu'est-ce que on lit dans Genèse chapitre 18, verset 14? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Abraham a ri, Sarah a ri, mais Dieu a tenu sa promesse malgré les circonstances difficiles, malgré tout ce temps qu'il fallait attendre. Et au verset 18 de Genèse, chapitre 18, verset 17, nous lisons encore, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham était arrivé à un tel stade de communion avec Dieu au travers de la patience, de la persévérance, de la foi, que l'intimité avec Dieu était à un haut niveau. On lit encore dans Genèse chapitre 22 que Dieu va demander à Abraham de sacrifier Isaac. Quelle épreuve! Et il va dire à Abraham de sacrifier le fils de son amour. Il va bien dire que c'est Isaac, pas Ismaël, qu'il faut sacrifier. Et bien Abraham va s'exécuter et il va faire ce que Dieu a demandé. Mais quelle connaissance aussi qu'il aura de Dieu! Parce que dans Genèse chapitre 22 verset 16 à 17 on peut lire ce que Dieu dit après qu'Abraham n'ait pas hésité à offrir Isaac. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et Joseph, de la même façon, après tout ce qu'il a connu comme difficulté, Joseph va dire à ses frères, Genèse 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Nous avons lu les psaumes ce matin. Eh bien, les psaumes nous parlent des hommes qui grandissent dans la connaissance de Dieu alors qu'ils recherchent Dieu au jour d'adversité. La Bible ne nous dit pas de rechercher l'adversité pour mieux connaître Dieu. Elle dit plutôt que dans l'adversité, Dieu nous cherche. Dieu veut nous faire grandir. Dans l'adversité, Dieu nous attire à lui dans une relation plus intime. Ésaïe 41:10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et on peut voir d'ailleurs avant ce Genèse 50, 20, où Joseph va dire à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. On peut voir rapidement, prenez avec moi Genèse 42, verset 36, ce que souvent nous disons dans l'adversité. Genèse 42, verset 36. Alors nous sommes à ce moment, il n'y avait pas de la nourriture se faisait rare, il y avait la famine, 7 ans de famine, et les frères de Joseph qui l'avaient vendu étaient obligés de retourner en Égypte pour chercher du blé, une fois, deux fois. Et après, verset, donc, j'ai dit 42-36, on regarde. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus. Siméon n'est plus. Et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que cela retombe. » Et très souvent, on dit, « Ah, j'ai déjà ça comme problème. J'ai encore celui-là. C'est encore sur moi que ce pépin retombe. » Et que se passe-t-il? Alors, pour Jacob, c'était le noir total. Mais du côté de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, l'histoire se déroulait. Le plan de Dieu se déroulait à merveille. Tout le mal qui avait été médité, tramé, eh bien, c'est au travers de ça que Dieu faisait de Joseph, enfin, le premier ministre de Pharaon, et qu'il sauvait tout un peuple, le peuple juif. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Jetons donc, frères et sœurs, chers amis, un regard neuf, un regard nouveau, un regard biblique sur l'épreuve. Oui, oui, elle est pénible. Oui, elle arrive par surprise. Elle nous frappe souvent au talon d'Achille. Elle paraît irrationnelle, dénuée de tout sens. Mais elle n'est pas le fruit du hasard, du règne. Elle est ordonnée par Dieu pour notre bien et pour sa gloire. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9 et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà, frères et sœurs, quelques pensées sur l'épreuve, la croissance dans l'épreuve, et j'aimerais terminer avec vous ce cantique qui dit « Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. » Je demande à notre frère Jérôme s'il veut bien nous accompagner au piano. 386, sur les ailes de la foi, on va se mettre debout pour entonner ce cantique. « Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. Ô ma foi faiblira, ô ma foi faiblira. » Et pourtant, la promesse est là pour moi. L'Éternel pourvoira. 386.